Chapitre 9. Éviter les conflits pour les résoudre en douceur. Toute réussite est relative. Vous pouvez améliorer votre réussite relative en dénigrant les compétences et les résultats de votre entourage. Scott Adams, extrait de Le principe de Dilbert. Bien entendu, c'est à nouveau pour son humour que j'ai choisi cette citation. Le cynisme est souvent bien plus amusant et drôle que les vérités. Vous l'avez vu dans les chapitres traitant de l'écoute et du tact, mais il est important de faire un point plus complet et précis sur le problème majeur des relations humaines, le conflit. Il existe différents types de conflits, certains plus graves que d'autres bien entendu, mais tous reviennent au même de toute façon. Deux volontés, deux opinions se heurtent l'une l'autre et s'affrontent. Vous partagez peut-être cette pensée habituelle qui veut qu'un conflit soit un mal pour un bien. On pense souvent, en effet, qu'en cas de difficulté relationnelle, il peut être utile d'aller jusqu'à l'affrontement. Les termes « crever l'abcès », par exemple, sont très à la mode en ce moment, induisant qu'une « bonne engueulade », comme on dit, permet de tout résoudre. Mais, sachez-le, il n'y a pas de bonne engueulade. Je ne le nie pas, il vaut parfois mieux provoquer une discussion que rester dans le silence et dans le non-dit. Mais une altercation, certainement pas. Un affrontement suppose toujours qu'il y a une lutte de pouvoir, et qu'au final, il y a un vainqueur et un vaincu. Or, personne ne veut faire partie des vaincus, n'en doutez pas. L'agressivité laisse toujours des traces et a toujours des conséquences, même si on ne les perçoit pas toujours sur le moment. Même si après l'affrontement, vous éprouvez la sensation que les choses vont mieux entre vous et votre interlocuteur et qu'elles sont plus claires. Clarifier les choses, c'est en effet une bonne attitude. Mais le remède peut être bien pire que le mal, et on ne vous pardonnera pas de vous être montré invasif, agressif ou autoritaire. Il existe bien d'autres méthodes pour éclaircir une situation difficile, pour mettre les choses à plat, sans mettre les pieds dans le plat. Et il n'y a pas de bon conflit. Je le répète encore, car il est capital que vous en ayez conscience. Aucun conflit n'est avantageux, quoi que vous en pensiez. Il ne s'agit pas, ici, de tout accepter des autres pour éviter le conflit, de ne pas revendiquer vos droits, faire valoir votre point de vue et vous comporter comme un lâche que l'on peut diriger à sa guise et en imposer facilement. Éviter les conflits ne signifie pas s'écraser, pour reprendre les termes si évocateurs de notre langage actuel. Un conflit est simplement le signe qu'il y a un bug dans la matrice ou un grain de sable dans la machine. Avoir un différend avec autrui suppose que vous n'êtes pas d'accord. Mais ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de monter sur les grands chevaux de votre indignation pour faire valoir votre point de vue. Vous n'êtes pas d'accord et c'est tout. Maintenant, être en désaccord sur des sujets peu importants est une chose, mais il y a des sources de conflits bien plus délicats à gérer. Qu'est-ce qu'un conflit ? Le mot vient du latin « conflictus », qui signifie « choc »,« lutte »,« combat ». Et « confligère », qui signifie « heurter »,« combattre ». Le conflit est donc un choc, un antagonisme, une opposition des sentiments, des opinions entre des personnes ou des groupes. Le conflit provoque toujours une crise. Or, l'origine de ce mot vous permet de mieux cerner les enjeux du problème. Le mot « crise » vient du grec « krisis », qui, littéralement, signifie « décision »,« jugement ». Vous pouvez également noter qu'en langue chinoise, ce mot est une association de deux caractères traduisant le danger et l'opportunité. Ainsi, vous avez tendance à associer le conflit à un dysfonctionnement, à une destruction ou une hostilité, contradiction, problème, tension. Il est considéré le plus souvent comme un échec. En soi, le conflit n'est ni bon ni mauvais. C'est la façon dont on contrôle ou on exploite un conflit qui entraîne des effets constructifs ou destructifs. La première réaction consiste à l'éviter ou à le résoudre. Il est intéressant de chercher à le comprendre pour en tirer profit. Vous pouvez déjà voir qu'on peut dégager deux directions différentes. Influence positive du conflit. Permet de trouver une solution constructive à un problème. Moyen de changer la façon de faire, innovation, rend le changement plus acceptable. Influence négative du conflit. Gaspillage des ressources, énergie, temps, argent. Affecte le bien-être psychologique des employés. Ressentiment, tension, anxiété. Rend difficile l'établissement de rapports de solidarité et de confiance. Affecte les résultats de l'organisation. Les sources des conflits. Je peux distinguer deux types de conflits. Bien sûr, il faut y mettre des nuances, mais c'est une première approche. Les conflits d'opinion, les conflits d'attitude. Dans la première catégorie, les conflits d'opinion, ils peuvent mener très loin si le sujet est grave. Mais il est rare que le conflit dégénère s'il n'existe aucun problème sous-jacent entre les deux interlocuteurs. Pour des sujets brûlants, comme la peine de mort, la politique ou l'euthanasie par exemple, vous pouvez avoir une position totalement inverse à celle d'autrui sans pour autant vouloir le convaincre à tout prix. Mais en règle générale, si les situations dégénèrent en affrontement, c'est justement parce que chacun veut convaincre l'autre. Pour le second, les conflits d'attitude sont ceux liés à la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. Le comportement de votre patron qui vous heurte et vous dérange, l'attitude de votre enfant que vous trouvez immature et puéril, etc. Ils sont souvent difficiles à gérer car les attaquer, c'est remettre en cause la personne elle-même, ce que vous, comme moi, acceptions très mal. Mais pour généraliser encore davantage, disons qu'il y a un vrai conflit lorsque chacun veut convaincre l'autre qu'il a raison. Encore du fiel au lieu du miel. Vous avez déjà abordé dès le deuxième chapitre cette notion. Et j'y reviendrai plus longuement, mais c'est tout de même ici que naissent la majorité des conflits, surtout des conflits d'opinion. Si vous êtes toujours certain de détenir la vérité, vous ne pourrez jamais vous entendre vraiment avec personne. Remettre en cause vos opinions, rester ouvert à la discussion, accepter d'autres idées, ne pas vous braquer. C'est la base de toute communication humaine. Rien n'est pire que ces personnes qui semblent toujours n'avoir qu'un seul avis et refusent d'en démordre. J'espère que ce n'est pas votre cas. Et si ça l'est, eh bien, il va vous falloir fournir quelques efforts supplémentaires. Mais en règle générale, pour peu que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin, vous êtes tout à fait capable d'entendre que votre opinion n'est pas la seule qui mérite d'être entendue, n'est-ce pas ? Les nominés au trophée des meilleurs acteurs du conflit sont. Avant même d'aborder la gestion proprement dite d'un conflit, encore faut-il savoir en identifier les acteurs, ceux qui se trouvent à la source, et il ne s'agit pas toujours de ceux que l'on croit. Voilà une petite liste, non exhaustive toujours, des acteurs classiques d'un conflit. Le médisant. Parfois celui que vous aurez le plus de mal à identifier. Car ses méthodes sont assez sournoises. L'agressif, celui-là, vous le repérez tout de suite. Le martyr, je sais, il vous agace et il agace tout le monde. D'ailleurs, d'où le conflit. Le stakhanoviste, il veut toujours en faire plus. Il ne dévie jamais de sa ligne de conduite. C'est un bourreau de travail et il vous donne des complexes. Il en donne à tout son entourage et il exaspère tout le monde. Le rebelle. Celui-là n'accepte aucune directive, aucun contrôle, et il prendra toujours le contre-pied de ce que vous affirmez, simplement parce que c'est sa nature, positivement agaçant. Le fanfaron. Je suis sûr que vous l'avez déjà croisé tôt ou tard, celui qui passe son temps à se vanter, à clamer ses propres louanges. Le tyran. Mon préféré, et sans doute celui qui mérite de remporter l'Oscar. Le tyran détient toujours un pouvoir, soit hiérarchique, soit par sa personnalité. Les différentes phases d'un conflit. Il est rare qu'un conflit éclate brusquement. En général, il passe par plusieurs phases d'évolution. Et les actions à envisager sont différentes selon ces stades d'évolution. Vous allez le voir. Mais sachez déjà que l'absence d'action ou bien des actions inappropriées engendre ce que j'appelle le phénomène d'escalade vers le conflit. Vous pouvez le constater, par exemple, lors d'un conflit de voisinage sur l'entretien d'une haie, ou bien entre frères et sœurs sur le cadeau d'anniversaire de mariage pour leurs parents, etc. Souvent, il s'agit de causes qui paraissent ridicules de l'extérieur. Mais pour commencer, je vous donne la liste de ces différentes phases d'un conflit. Phase de divergence. Désaccord non exprimé. Votre vis-à-vis manifeste des réticences, des sous-entendus, emploie un langage allusif, prend des attitudes dubitatives ou ironiques, ou encore absentes ou fermées. Le désaccord est conscient, mais non exprimé directement. Discussion. Votre interlocuteur pose des questions pour compléter son information, pour sonder et éprouver la solidité de vos arguments. Les opinions discordantes commencent à émerger de façon implicite à travers les questions soulevées, dans les termes employés. Différends ouverts. Moment de l'argumentation. Chacun cherche à prouver qu'il a raison. On pense de moins en moins au sujet, de plus en plus aux arguments à faire valoir. Le différend se traduit par un désaccord sous forme de points de vue clairement opposés. Phase de tension. Le désaccord non résolu laisse un sentiment désagréable et envahissant. Colère, frustration, découragement, lassitude. Le résultat est l'impression de ne pas avoir été entendu, de n'avoir pas réussi à convaincre autrui du bien fondé de sa position, de n'avoir pas su exprimer ses idées. La tension est là, bien présente, sans que l'on réussisse à exprimer ses émotions. Phase de blocage. La communication est rompue, l'échange quasi impossible, les non-dits sont nombreux, les sentiments négatifs s'accumulent. Chacun des protagonistes met en place de manière inconsciente des stratégies qui lui permettent de vivre le moins mal possible cette situation difficile. Le conflit reste latent à ce stade, l'ambiance est pesante. Phase du conflit ouvert. Une étincelle met le feu aux poudres. Et c'est l'explosion. Vous allez chercher spontanément à miner l'influence de l'autre, à le détruire. L'issue ne peut être que victoire, échec ou compromis. C'est un cran supplémentaire dans l'escalade. Désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Heureusement, vous n'êtes pas condamné à vivre cette escalade. L'introduction d'une étape supplémentaire avant toute celle-ci peut aider à maîtriser le processus. C'est l'anticipation. Avant l'entretien ou l'action, vous pouvez prévoir qu'il y aura des divergences et donc un risque de conflit. Ainsi, à chacune des étapes que vous venez de voir, il vous est possible et hautement souhaitable d'interrompre l'escalade. C'est un schéma d'action qui suit les règles suivantes. Règlement des divergences. Diminution des tensions. Sortie d'un blocage. Négociation. Les attitudes face à un conflit. Vous l'avez vu, c'est l'attitude que vous adopterez face à une situation conflictuelle qui va vous permettre de sortir du cercle vicieux et d'éviter l'escalade. Je peux vous donner, dès à présent, les grands types de comportements que vous adoptez en général devant ce genre de situation. Il y a trois comportements distincts que vous adoptez selon votre personnalité et la nature du conflit ou ses enjeux. La fuite ou la passivité. L'attaque, autrement dit l'agressivité. La manipulation. Autant vous le dire tout de suite, aucune de ces trois attitudes n'est la bonne, même si elles sont tout à fait naturelles. Vous agissez par instinct et vous ne vous rendez pas compte que vous allez faire empirer les choses au lieu de les résoudre. En fait, face à un conflit, il n'y a qu'une seule attitude qui soit vraiment efficace. On la nomme l'assertivité. Assertivité, définition. Le mot vient du mot anglais « assertiveness », initié par Andrew Salter, psychologue new-yorkais dans la première moitié du siècle dernier. Développé plus récemment par Joseph Wolpe, psychiatre et professeur de médecine américain, comme expression libre de toute émotion vis-à-vis d'un tiers, à l'exception de l'anxiété. L'assertivité est définie comme une attitude dans laquelle on est capable de s'affirmer tout en respectant autrui. Il s'agit de se respecter soi-même en s'exprimant directement, sans détour, mais avec considération. Cela conduit à diminuer le stress personnel, à ne pas en induire chez autrui et à augmenter l'efficacité dans la plupart des situations relationnelles. Cette attitude est particulièrement importante dans toutes les situations de la vie, mais elle l'est particulièrement dans toutes les situations d'entretien professionnel et notamment dans le management, domaine où elle est trop souvent ignorée.